Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
h sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, votre émission hebdomadaire, comme chaque lundi, en direct pour vous accompagner dans ce début de semaine et pour vous accompagner sur ce début de soirée, comme chaque lundi. Louis-Marie Gabriel, bonsoir.
Bonsoir Enzo, bonsoir tout le monde.
Alors, quel est le programme de l'émission du jour?
Alors, comme chaque lundi, des chroniques, de la musique, et aujourd'hui on a la joie de recevoir un invité. On reçoit Clotilde Lapeyre qui nous parlera d'SOS Chrétien d'Orient et de l'engagement personnel.
Voilà, une émission qui promet d'être riche en spiritualité, en amusement et en musique. Et pour commencer cette soirée ensemble, comme chaque lundi, un peu de musique tout de suite, Jean-Jacques Goldman avec Au bout de mes rêves. On se retrouve juste après Louis-Marie avec ta chronique qui portera sur les couleurs liturgiques, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, oui.
h4 sur Radio Présence, et comme chaque lundi, on retrouve Louis-Marie Gabriel. Louis-Marie, première chronique du jour sur les couleurs liturgiques.
Exactement, donc comme on l'a vu hein, pendant le temps du carré, mais maintenant pendant le temps pascal, les couleurs changent au fil de l'année liturgique et des semaines. Et ces couleurs ne sont pas le fruit du hasard, ni une simple question d'esthétique. Elles parlent, elles sont une catéchèse silencieuse, un langage que l'Église s'adresse à nos yeux avant même que nos oreilles n'entendent la première lecture. Donc aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans ce voyage chromatique au cœur de notre liturgie. en commençant par le violet qui nous a donc accompagnés durant le carême, un temps liturgique particulièrement riche en attente et en conversion. Le violet est aussi la couleur de l'Avent, ces deux temps forts de l'année liturgique partagent une même tonalité intérieure, la pénitence, le recueillement, l'espérance tendue vers quelque chose qui vient. Pendant l'Avent, nous attendons la naissance du Sauveur, pendant le carême, nous marchons vers sa passion et sa résurrection. Le violet, couleur sobre, presque austère, nous invite à entrer en nous-mêmes, à faire silence et à préparer nos cœurs. Il est aussi parfois la couleur des obsèques, rappelant que face à la mort, l'Église nous accompagne dans la prière et l'espérance de la résurrection. Vient ensuite le blanc, et là tout change, c'est la lumière, la joie, la pureté et la gloire. Le blanc habille les plus grandes fêtes de l'année liturgique, Noël, Pâques, l'Ascension, les fêtes de la Très Sainte Vierge Marie, celles des saints qui ne sont pas martyrs, ainsi que les baptêmes et les mariages. Quand vous voyez le prêtre revêtu de blanc ou d'or, c'est l'Église tout entière qui dit « Réjouissons-nous ». Quelque chose d'extraordinaire s'est accompli, la résurrection du Christ, la naissance du Fils de Dieu, la sainteté manifestée dans une vie humaine, tout cela appelle la lumière. Le blanc, c'est l'Alléluia mis en couleur. Puis il y a le rouge, une couleur forte, intense, qui ne laisse personne indifférent. Le rouge est la couleur du feu et du sang. Il est porté pour la Pentecôte, lorsque l'Église célèbre la descente de l'Esprit-Saint sous forme de langue de feu sur les apôtres. Il est aussi la couleur de la fête des martyrs, ces hommes et ces femmes qui ont versé leur sang pour leur foi. Quand vous voyez du rouge, pensez à ces doubles réalités. La brûlure de l'Esprit qui transforme et le courage de ceux qui ont aimé le Christ jusqu'à verser leur sang. Le rouge est une couleur qui témoigne, il rappelle que la foi n'est pas un confort douillet, mais parfois un engagement total jusqu'au sacrifice. Vient ensuite le vert, qui peut être la couleur la plus discrète et pourtant la plus présente dans l'année liturgique. C'est la couleur du temps ordinaire. Le temps ordinaire, ce nom peut paraître banal, presque décevant, mais ne vous y trompez pas, ce temps qui s'étend sur de nombreuses semaines de l'année, entre la fête du baptême du Seigneur et le carême d'un côté, et entre la Pentecôte et l'Avent de l'autre, est en réalité un temps de croissance et de maturation dans la foi. Le vert, couleur de la nature en pleine vie, de l'herbe, des arbres, symbole cet enracinement progressif dans l'Évangile. Pendant le temps ordinaire, nous suivons le Christ semaine après semaine dans ses enseignements, ses miracles et ses paraboles. C'est le temps du discipulat quotidien, et le vert dit que cette vie ordinaire est elle aussi une vie sainte. Il existe deux couleurs plus rares mais significatives, le rose, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est parfois appelé la couleur de la joie atténuée. Elle apparaît seulement deux fois dans l'année, le troisième dimanche de l'Avent, appelé le dimanche Gaudete, et le quatrième dimanche du carême, le dimanche Laetare. Ces deux dimanches portent des noms qui évoquent la réjouissance, ils sont comme une petite fenêtre au milieu d'un temps de pénitence. L'attente est encore là, mais la joie perce déjà. C'est une invitation à ne jamais perdre le sourire de la foi, même dans l'effort spirituel. Enfin, le noir, traditionnellement porté lors des messes de funérailles et du Vendredi Saint dans le rite extraordinaire, symbolise le deuil et le mystère de la mort. Certaines églises ont le remplacé par le violet, mais là où il subsiste, il est d'une puissance saisissante. Face à la mort, l'Église s'agenouille dans le silence. Ces couleurs, chers auditeurs, ne sont pas de simples conventions, elles sont la traduction visible d'une réalité invisible, elles disent le temps de Dieu, son rythme, ses mystères, elles parlent à nos corps autant qu'à nos âmes. Avant même d'ouvrir un missel ou d'entendre une homélie, elles nous ont déjà dit quelque chose d'essentiel sur ce que nous sommes venus célébrer. Alors la prochaine fois que vous entrerez à la messe, regardez les couleurs, laissez-les préparer vos cœurs, car elles sont une prière que l'Église murmure à vos yeux depuis des siècles.
Merci beaucoup Louis-Marie.
Avec plaisir.
Il est présent parmi nous, puisqu'il nous aime, il s'est sacrifié pour nos dieux et suscité. Oui, par son baptême, il est au milieu de nous. Il est présent parmi nous, puisqu'il nous aime, il s'est sacrifié pour nos dieux et suscité. Oui, par son baptême, il est au milieu de nous. Baptisé par
Depuis des siècles, la France entretient un lien singulier avec les chrétiens d'Orient. Déjà au XVIe siècle, sous le règne de François Ier, le royaume se posait en protecteur de ses communautés. Une tradition diplomatique et culturelle qui a traversé le temps et aujourd'hui encore. Cet engagement prend de nouvelles formes, porté notamment par des volontaires qui choisissent de s'impliquer sur le terrain. Et à cet effet, nous recevons justement Clotilde Lapeyre qui a fait le choix de s'engager avec SOS Chrétien d'Orient. Bonjour Clotilde.
Bonjour à tous.
Alors, première question très basique. Qu'est-ce que SOS Chrétien d'Orient ?
Alors, pour résumer, SOS Chrétien d'Orient, c'est une association d'intérêt général qui a été créée en 2013 et qui est déployée dans 8 pays essentiellement. Donc, on a l'Égypte, le Liban, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, l'Arménie, l'Éthiopie et enfin le Pakistan. Concernant les missions, on ne peut pas partir, il me semble, en Jordanie ni en Éthiopie, mais il y a quand même des salariés qui sont présents toute l'année. Voilà, pour assurer cette continuité, c'est là un peu l'originalité de SOS Chrétien d'Orient, c'est que toute l'année, il y a des volontaires qui sont présents et qui assurent une continuité, comme tu l'as très bien dit en introduction, pour garantir ce devoir que nous avons envers les chrétiens d'Orient.
Et donc ce qu'on comprend bien, c'est des volontaires qui partent justement aider donc, des populations chrétiennes qui sont forcément en danger, mais sur lesquelles ils peuvent y avoir des complications justement.
En fait, c'est ça. L'idée, c'est de constituer des équipes. Donc, tout se fait dans des sortes de colocations. Où, en fait, c'est aux volontaires de créer en fait les missions, les projets, de monter une fois sur place et voilà de s'assurer qu'il y ait voilà ce lien qui se crée avec les familles d'Orient. Par exemple, ça peut être aller à l'encontre d'une famille et faire un peu le relevé de ce qu'il y a besoin pour le quotidien. Ça peut être un four, ça peut refaire une chambre, ça peut être plus largement aider un agriculteur dans la manœuvre, ça peut être aussi refaire une pièce dans une école. Voilà, c'est des choses extrêmement concrètes qui sont montées par les pôles qui sont présents en fait sur place. Et il y a forcément des échanges en fait, il y a énormément de volontaires qui tournent parce qu'en fait l'originalité de cette association, c'est qu'en fait les délais pour partir sont assez courts. Ce qui facilite en fait le fait que...
Un certain turnover.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va partir à partir de 28 jours en juillet et août, donc les périodes estivales qui sont assez prisées pour les étudiants. Et sinon, c'est 45 jours dans l'année. Donc c'est assez original pour une association humanitaire.
Et donc justement, quelles sont les démarches pour effectuer cette mission ?
Alors c'est assez simple. Il faut de nous-mêmes envoyer son CV au pôle volontaire. Donc on envoie son CV, on va avoir un retour sur quelques papiers administratifs à envoyer. Et ensuite, on est convoqué à une journée de formation après avoir rempli un gros dossier bilan sur notre personnalité, nos ambitions, ce qu'on attend de la mission. On se rend à cette mission humanitaire, de formation à Paris, qui se fait à Paris, dans le siège de l'association. On échange avec des anciens volontaires, on a des échanges avec les responsables de l'association et qui nous exposent un peu comment se passe une mission, quels sont les grands fondamentaux de l'Église orientale, etc. Puis après, c'est à nous de s'engager à faire 3 missions. Donc, par exemple, ça peut être faire des collectes de fonds, donner des tracts, faire comme moi aujourd'hui, vous m'avez permis de faire de parler des SOS Chrétien d'Orient. C'est ça, exactement. Et une fois que toutes ces 3 missions ont été effectuées, on fait un compte-rendu et on peut espérer être reçu en entretien. Et puis, c'est seulement là qu'on nous affecte à une mission.
Donc on voit que c'est un engagement qui a une portée humanitaire, mais évidemment, il y a aussi tout ce plan-là qui tient de la foi et aussi du domaine spirituel, qui, je pense, est aussi une motivation. On comprend que c'est quelque chose qui est vraiment présent, et est-ce que c'est aussi quelque chose qui est vraiment une source de motivation aussi pour les volontaires, de s'engager sur le plan de la foi et que cet aspect-là soit moteur aussi de l'engagement ?
Oui, tout à fait. Ce n'est pas une condition pour partir. Il faut savoir que tout le monde peut, de toute confession, peut partir. Mais voilà, il y a une forte présence spirituelle dans la mission parce qu'on est accompagné parfois par des prêtres et puis aussi essentiellement, on sert les chrétiens d'Orient. Mais oui, en fait, c'est très important du point de vue de la foi parce qu'on découvre aussi nos dimensions de l'Église. Et voilà, ce sont nos frères et sœurs dans la foi et que c'est très important de comprendre et de percevoir les différentes manières aussi de communiquer dans l'espérance, etc. Et qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous la chance de pouvoir témoigner et vivre notre foi de la même manière. Et donc c'est vraiment un aspect de la mission qui est très important, oui, bien sûr.
Ce qu'on remarque surtout dans l'Église, c'est qu'il y a une vraie richesse même dans l'Église catholique des rites, tandis que l'Église respire des deux poumons, de l'Orient et d'Occident. Du coup, il y a cet aspect-là aussi d'enrichissement, je pense, mutuel, d'une part peut-être des volontaires qui viennent aussi apporter de leur temps et de leur disponibilité, mais aussi est-ce que ce qu'ils viennent puiser dans ces voyages, en quoi ça leur servira après pour leur retour dans le monde, enfin pour leur retour dans la vie banale tout simplement.
Moi, je pense que c'est essentiellement cette dimension de témoignage. Je pense que c'est d'avoir vu et de pouvoir témoigner ensuite auprès de nos familles, de nos amis, de nos paroisses, de nos écoles, de nos groupes scouts, etc. Je pense que cette dimension de témoignage, parce que c'est vrai que c'est quand même, ils sont quand même très éloignés géographiquement de nous. Donc, en fait, on a du mal à en parler, à en percevoir voilà, les différences qu'il y a entre nous, mais ce qui nous lie aussi. Donc, je pense que c'est essentiellement cette dimension de témoignage. Et puis après, c'est aussi... c'est une sorte de claque qu'on se prend aussi dans notre confort, notre foi assez confort en France, même si faut pas oublier que être chrétien en France aujourd'hui, c'est pas forcément facile. Mais je pense que c'est essentiellement cette dimension de témoignage.
Okay. Et donc par rapport aux destinations qui sont possibles, il me semble que ceux qui partent ont le choix de la destination dans laquelle ils vont être envoyés, ou c'est décidé un peu au hasard?
Alors on n'a pas le choix, non. Alors on a des les 8 pays que je vous ai cités, voilà, on peut être envoyé là-bas. Mais l'esprit de l'association, c'est quand même d'envoyer des volontaires là où il y a besoin. Donc les besoins ne sont pas toujours les mêmes en fonction du moment où on part. Et ce n'est pas non plus l'esprit. On peut donner des préférences. On peut aussi demander à ne pas partir dans certains pays. Je sais qu'en ce moment, c'est compliqué, par exemple au Liban. Ça peut inquiéter certains. Mais non, ce n'est pas l'esprit. On ne peut pas choisir sa mission, non.
Et justement, au vu des conflits par exemple qui sévissent au Moyen-Orient et qui impactent les territoires tels que le Liban, SOS Chrétien d'Orient est quand même présent, et comment ils œuvrent justement à ça? Il y a aussi une question de protection humanitaire des populations civiles ou des choses comme ça?
Alors ça, il faudrait peut-être plus demander à quelqu'un qui est là-bas. Mais alors au Liban, je sais qu'ils sont déployés à Beyrouth et à Tripoli. Et mais alors essentiellement quand les conditions le permettent, ça va être c'est ce que je vous ai cité en introduction, ça change tout le temps en fait, les missions sont jamais les mêmes, c'est ça la richesse de SOS Chrétien d'Orient. Mais sinon ça va être aussi des appels de fonds, des donations, etc. En tout cas les pôles volontaires sont quand même toujours présents. Enfin si vous suivez les comptes Instagram, etc. ils sont assez communicants là-dessus. Il y a des convois qui partent et il y a des gens qui sont là pour aider. L'aide n'est pas interrompue.
Donc, pardon Louis-Marie, oui. Je t'en prie.
Oui, concernant du coup le côté engagement et le côté aussi un peu personnel de ce désir-là, du coup, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un aujourd'hui en France? Est-ce que Chrétien d'Orient est aussi implanté dans d'autres pays ou c'est uniquement en France?
Alors, je crois qu'en Belgique, ils ont monté une antenne, mais essentiellement en France.
Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait pousser comme ça un jeune Français à partir comme ça pour aider cette cause? Et pourquoi du coup, l'attrait pour cette cause en particulier des Chrétiens d'Orient?
Alors, je pense, moi, à titre personnel, on m'en a beaucoup parlé. Je sais que j'avais des cheftaines qui étaient partis quand j'étais jeune aider les Chrétiens d'Orient. Et c'est aussi une forme d'injustice qui nous touche aussi particulièrement, nous, avec le lien qu'on a avec le Liban, par exemple. Donc forcément, ça fait réfléchir et ces associations qui permettent en fait, de se déplacer et de pouvoir apporter une aide concrète, même si c'est primaire, voilà, oui. Qu'est-ce qui peut motiver? Bon, je pense que c'est ça, hein, cette conscience en fait, qui éveille en nous quand on grandit, en fait, et en parlant avec... d'autres amis, en rencontrant des gens. Moi, je sais que j'ai habité pendant 3 ans en Afrique et cette situation des chrétiens d'Orient, notamment en Éthiopie, on en avait quelques échos quand même. Donc, je pense que c'est quelque chose qui s'éveille avec l'expérience, avec les échanges qu'on peut avoir entre nous.
Et profondément, toi, concrètement, ce désir d'engagement et de volontariat, donc il est né par tes expériences personnel, mais qu'est-ce que t'attends justement de cette expérience, une évolution peut-être aussi dans ta construction en tant que femme, en tant que chrétienne?
Oui, c'est une de mes motivations, c'est vrai, mais je pense que c'est surtout comprendre comment ils vivent, comprendre comment ils s'entêtent à rester aussi chez eux, comprendre comment est-ce qu'ils vivent dans ce climat et comment est-ce que nous, on peut apporter une aide concrète. Et je pense, je reviens sur cette dimension de témoignage, mais je pense qu'il y a un problème dans notre société aujourd'hui, particulièrement dans le milieu catho, c'est que on n'entend pas parler forcément de la situation des chrétiens d'Orient, c'est pas quelque chose qui se démocratise. Donc je pense que simplement pouvoir rencontrer les chrétiens d'Orient et pouvoir ensuite témoigner par, je sais pas, dans des échanges ou par des conférences, ou j'en sais rien, peut-être que je reviendrai à être présent, je sais pas, mais voilà, enfin, témoigner de ce qui se passe parce qu'on y est allé, je pense que c'est ce qui me motive le plus. Et après, en construction en tant que femme, c'est sûr, bah, déjà cette dimension de colocation, en fait, de pouvoir vivre cette expérience ensemble et de communauté où on peut monter des projets ensemble, c'est aussi, je pense que ça aide à la construction personnelle. Et puis pareil pour la foi, en fait, de pouvoir bloquer ces 2 mois pour ma part dans un quotidien hyper mouvementé d'étudiants, c'est aussi hyper enrichissant et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et d'en sortir grandi. Dans tous les cas, tous les anciens volontaires à qui j'ai parlé, ils ont dit que c'était une expérience qui change la vie.
Justement, de ces volontaires, c'est quoi les retours qu'on a? Alors bien sûr, ça change la vie, mais qu'est-ce qui touche le plus?
Alors je vais vous donner une anecdote pour ça. Alors j'ai rencontré à ma journée de formation à Paris des anciens volontaires qui étaient partis en Irak. Et c'est pas la destination la plus prisée des gens qui veulent partir, mais pourtant ils ont été hyper touchés, et notamment par un point. Alors, ils étaient partis avec de grandes ambitions, ils voulaient absolument servir, être dans le concret, il y avait beaucoup de projets qui étaient montés. Sauf qu'en fait, ils étaient à chaque fois arrêtés par les populations qui les invitaient tout le temps à prendre le thé, à aller déjeuner. Et en fait, ils étaient super frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à aller au bout de leur projet. Et au début, c'était compliqué. Et à la fin, ils m'ont dit, mais en fait, on a compris qu'au final, on était là pour ça, en fait, pour cette aide morale et leur garantir que nous, on pensait toujours à eux, qu'il y avait des jeunes qui étaient à leur côté, qui se déplaçaient, qui prenaient sur leur temps de vacances. Et c'était ça, en fait, le plus essentiel pour eux, plutôt que de réparer, voilà.
Oui, le fait d'avoir une présence humaine aussi, et enfin, oui, d'avoir aussi des gens qui sont là. Enfin, je pense que ce que les gens perçoivent, c'est que justement, si vous venez, c'est que vous êtes vraiment motivé par quelque chose qui vous dépasse un peu aussi, et vous avez vraiment ce souhait-là d'être là pour eux. Et c'est peut-être ça aussi, du coup, qui a dû toucher ces gens-là, en fait. C'est de se dire que, ben voilà, il y a des gens qui. Enfin, de voir qu'ils ne sont pas invisibles, en fait.
Exactement.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui prend quand même de l'ampleur. En fait, on voit quand même qu'il y a beaucoup de communication qui est faite sur les réseaux sociaux, qu'on voit un peu que ça se développe et que les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette cause-là, qui est très importante. Et donc voilà, c'est bon aussi d'avoir ces retours-là. Et concernant du coup, sur le terrain, comment est-ce que les volontaires sont accompagnés spirituellement? Comment est-ce qu'ils arrivent à du coup continuer à vivre leur foi dans un cadre qui est complètement différent de ce à quoi ils ont l'habitude habituellement?
Alors pour ça, on a eu un entretien avec le conseiller religieux de l'association pendant la journée de formation, qui nous a fait un point sur, voilà, en tant que catholique en France, comment est-ce qu'on peut remplir le devoir d'aller à la messe tous les dimanches, etc. Parce que c'est compliqué, on ne peut pas communier à toutes les messes, etc. Mais sinon, globalement, ils essaient d'envoyer des prêtres.
D'accord, voilà, les prêtres de France qui viennent.
D'accord, exactement, ils essaient d'en envoyer. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, ils sont quand même très occupés, donc... Oui. Ils essayent, mais voilà, pour la continuité de la foi, c'est essentiellement ça.
Et est-ce que du coup, il y a aussi une continuité aussi, une ouverture aussi par rapport, du coup, on en a parlé aussi aux autres rites qui sont dans l'Église catholique, qui sont très nombreux et qui sont parfois présents aussi, notamment par exemple au Liban avec les maronites. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi, qui fait partie un peu aussi de l'apprentissage un peu en amont, qui est aussi développé sur place?
Ah oui, c'est hyper important. Mais ils nous ont dit à la journée de formation qu'on devait se rendre à tous ces rites, qu'il fallait une présence et qu'elle était très importante et ils y étaient vraiment attachés. Donc il y a toujours des délégations dimanche. Dimanche, c'est un peu le temps libre, ouais. Mais il faut qu'on se rende dans les différents rites, faut qu'on puisse les suivre pour pouvoir montrer cette présence, en fait.
Ouais. Peut-être aussi pour mieux les comprendre, pour mieux aussi voir,
exactement,
en fait, comment est-ce,
oui,
que leur foi est vécue. Et,
oui.
Parce qu'on sait bien que la liturgie, c'est le plus important, c'est le sommet de notre foi. Et donc, ça doit sûrement être aussi assez enrichissant de voir aussi les différentes formes et les différentes manières que les gens ont de vivre leur foi, non,
oui,
seulement dans une culture qui est différente, mais dans des choses,
oui,
qui, à la fois, qui sont très différentes, mais où il y a aussi sûrement des choses qui nous parlent aussi et, oui, et quand même un ancrage aussi central. Quoi.
Oui, carrément.
Et aussi, une question qui est beaucoup plus pratique, qui est aussi personnelle, mais qui aussi doit être collective, parce que peut-être que certains de nos auditeurs aussi seraient intéressés pour partir en mission donc au Moyen-Orient avec SOS Chrétien d'Orient. Le côté sécuritaire, Comment par exemple toi tu es prêt à le gérer et comment en fait l'association essaie de le gérer pour à la fois rassurer parce que on peut pas mentir, dire on peut part pas sans risque. Oui. Il y a quand même un risque. Comment on le gère tout ça?
Alors oui, effectivement, il y a un risque qui est pris très au sérieux par l'association. On a eu un enseignement dessus dans la journée de formation. Alors il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Déjà, on peut pas partir sans se déclarer. On doit dire quand est-ce qu'on est parti, avec qui, et
avec
une fois qu'on est arrivé.
Avec le ministère des Affaires étrangères, etc.
Oui, déjà, avec le chef de mission, parce que c'est quand même très encadré. Il y a un chef de mission, il y a différents pôles. Voilà, on peut pas se déplacer comme on veut. Je sais qu'on a un sac à prendre avec nous, avec l'essentiel à chaque fois qu'on se déplace aussi. On est déclaré. Il y a une assurance, en fait, l'essentiel du coût d'un volontaire, c'est l'assurance que prend l'association aussi. Donc, c'est quand même très encadré sur la sécurité. Je vous en parlerai pas très bien, mais.
Bien sûr. Mais comment toi, par exemple, qui va peut-être partir, tu arrives à le gérer, par exemple, pour toi personnellement, mais aussi au niveau de tes proches?
Alors, c'est une question qui m'a souvent été posée. Alors, personnellement, moi, je fais confiance à l'association. Je sais que j'ai vraiment perçu que c'était cadré. Et qu'il n'y a eu aucun souci avec les volontaires dernièrement, que tout le monde trouve que c'est géré très au sérieux. Puis aussi, il y a aussi ce contact avec les salariés locaux qui connaissent très bien les lieux de mission et qui sont au courant de tout et qui sont capables en fait, de savoir quand est-ce qu'une mission ne pourra pas se réaliser parce que c'est trop à risque. Voilà, il y a vraiment, vraiment un vrai lien avec les salariés locaux qui est vraiment très important et je pense essentiel dans la sécurité. Sinon, avec mes proches, je pense qu'ils me font confiance. Et comme je fais confiance à l'association, voilà, c'est une chaîne de confiance.
Ah, très bien. Donc on voit du coup que ce départ-là, il est anticipé, il est proche. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a une destination qui t'intéresserait ou que tu priserais peut-être plus qu'une autre?
Alors oui, moi j'aimerais bien partir en Arménie, mais voilà, si jamais ils m'entendent, voilà. Mais non, en soi, toutes les missions sont plus riches les unes que les autres et tous les volontaires ressortent ravis. J'ai jamais entendu un avis négatif, donc bon, peu importe où je serai contente.
Pas de mauvaise surprise.
Non, c'est ça.
Et donc cette association SOS Chrétien d'Orient, depuis combien de temps elle existe et d'où est-ce qu'elle vient et comment est-ce que c'est construit aujourd'hui pour prendre autant d'ampleur?
Elle a été créée en 2013. Alors au départ, c'était seulement des aides d'urgence. Donc c'était très ponctuel.
Ouais. Oui, c'était au besoin quand il fallait vraiment envoyer des gens.
Exactement, quand le Moyen-Orient était particulièrement touché. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de projets de développement économique pour permettre aux chrétiens d'Orient et aux familles d'être assez autonomes, en fait, et de se produire de la richesse eux-mêmes. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Ils ont monté. Alors, j'avais ramené des petits exemples. J'ai vu qu'ils avaient réhabilité. Voilà, une boulangerie, par exemple. Il y a une boulangerie qui avait été réhabilitée en Syrie. Les canaux d'irrigation en Irak, etc. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur. Comme tu
disais. Le but, c'est d'avoir quelque chose de durable aussi et que le passage des bénévoles ne soit pas juste quelque chose de temporaire, mais que derrière, en fait, le but, c'est justement, enfin, techniquement, il faudrait qu'il n'y ait pas besoin de volontaires. Mais oui, c'est vrai qu'en attendant. Donc, voilà, du coup, ça s'est installé progressivement et c'est devenu, du coup, aujourd'hui, quelque chose qui se fait régulièrement. Donc, il y a toujours des roulements, il y a toujours des.
Tout le temps.
Tout le temps. Mmh. Okay. Et du coup, on voit que ça a une portée du coup à l'échelle nationale, que ça prend de l'ampleur. Est-ce que y a pas un souci aussi de, enfin, est-ce qu'il y a pas trop de monde du coup? Est-ce que l'association est obligée de dire non peut-être à certaines personnes ou il y a encore c'est encore suffisamment aéré pour que les gens puissent venir et puissent partir un peu.
Alors je pense que ça peut être le cas l'été parce que forcément les gens ont plus de temps l'été, donc c'est plus difficile de répartir les volontaires. Mais dans l'année, globalement, il y a toujours des besoins. Enfin, pour les gens qui font des années de césure, etc., enfin, c'est l'occasion de partir. Et voilà, c'est sûr qu'il y a moins de volontaires qui veulent partir l'année que l'été. Mais non, je pense qu'ils sont tout le temps en train de faire des campagnes pour recruter. Donc je pense que non, les besoins... Il y a des volontaires, mais les besoins seront toujours là.
Okay. Et du coup, pour revenir un peu aux salariés qui sont là, les salariés du coup, de l'association, ils sont présents tout le temps sur les lieux de mission. Et ils y restent indéfiniment comme ça Où il y a parfois des changements, enfin, ils restent déjà à plus long terme, oui, mais...
Alors, généralement, ce sont des locaux. Donc,
ah oui, d'accord, donc c'est des gens qui
réunissent, oui. Mais je pense qu'il peut y avoir des changements. Mais d'accord. Je pense que c'est important d'avoir cette relation de confiance, ouais. donc une certaine pérennité.
Ah, d'accord, donc les salariés locaux, c'est des gens du coup, qui sont déjà sur le terrain et qui sont, oui. Donc c'est des locaux, d'accord. Mm. C'est comme ça partout, dans tous les endroits?
Normalement, oui.
C'est assez intéressant de voir ça, parce que moi, j'imaginais du coup que c'était peut-être des gens de l'association qui allaient s'installer là-bas ou qui allaient s'implanter là-bas, mais en fait,
c'est possible. Je pense que quand on est vraiment attaché à une mission et révolutionner sa vie, c'est possible qu'il y en ait qui se soient installés.
Mais du coup, ça doit être intéressant sur le plan humain d'avoir quelqu'un qui est déjà imprégné du coup de l'endroit et qui vit tout le temps là-bas, en fait. Et du coup, c'est eux qui reçoivent les groupes à chaque fois.
Ce qui prépare le terrain, oui. Après, il y a comme un gros lien avec le chef de mission, ouais. qui est vraiment essentiellement responsable de la mission. Et après, tous les volontaires sont dispatchés en pôle. Donc, il y a le pôle donation, il y avait le pôle organisation de la coloc, etc.
Ouais. Et le chef de mission, c'est quelqu'un qui est déjà parti, qui a déjà un peu d'expérience, ou c'est quelqu'un qui est tiré comme ça un peu
Pas nécessairement. Il me semble que c'est aussi ceux qui restent les plus longtemps en mission, d'accord. Normalement, c'est ça. Mais...
Oui, d'accord. Oui, donc ils ont un rôle un peu de référent, quoi.
Et pour conclure cet entretien, Clotilde, est-ce que tu aurais typiquement un conseil, une phrase peut-être d'encouragement à des personnes qui, comme toi, souhaiteraient s'engager?
Alors moi, personnellement, je suis encore dans ma phase de recrutement, donc je suis
hyper motivée.
Oui, mais
t'as déjà fait les étapes
Oui, je suis hyper motivée, et puis c'est un projet que je mûris depuis longtemps. Alors moi, vous avez apporté la lettre du président de SOS Chrétien d'Orient, Charles de Meyer, qui s'adressait justement à ceux qui hésitent. Et j'avais surligné quelques passages que je voudrais bien vous partager.
Avec grand plaisir.
Nous écoutons.
Alors, il disait « Ce que nous voulons que tu découvres avec nous, c'est l'envergure de la chrétienté. Une chrétienté qui ne sonne pas des mêmes sons, qui ne sent pas les mêmes odeurs, qui ne prie pas dans les mêmes langues. Mais une chrétienté qui, comme toutes les autres, souffre des mêmes fardeaux pour tenir coûte que coûte la même espérance. » Et plus tard, il disait « Les chrétiens que tu rencontreras là-bas sont comme toi, mais ils ne te ressemblent pas. Au cœur de ce paradoxe se nicheront des richesses insoupçonnées pour celui qui se donne en vérité. Et c'est cela que nous te promettons. Il n'y aura pas de phare, il n'y aura pas de quotidien factice. Il n'y aura que la vérité de tes rencontres avec tes frères chrétiens d'Orient. » Ouais, je pense que c'est le conseil, ça serait la curiosité et d'y aller. Enfin, c'est une expérience d'une vie et voilà, c'est cette dimension de témoignage. Et aussi, ce qui est important et que je voulais partager avec vous aussi, c'est qu'avec la SOS Chrétien d'Orient, ce qui est hyper intéressant, c'est que la mission se poursuit après le retour en mission. C'est-à-dire que les anciens volontaires peuvent repartir pendant les fêtes de Pâques ou de Noël dans des pays où est déployé SOS Chrétien d'Orient. Et ils peuvent encore proposer des événements avec SOSCO. Ils peuvent revenir pendant les journées de formation pour témoigner, aider les nouveaux volontaires. En fait, la mission, elle ne s'arrête jamais. Donc, c'est ça qui est super intéressant aussi.
Ouais, une vraie continuité. Et ce qui est beau aussi, comme ce qui a été écrit dans la lettre, c'est aussi rappeler qu'en tant que chrétien, on est une très grande famille. Ouais. Et que c'est important, du coup, oui, aussi d'aller faire la connaissance de nos frères et nos sœurs qui sont parfois plus loin que nous, mais qui pourtant partagent aussi cette même foi et que ça déploie encore plus cet amour pour le Christ.
Un grand merci, Clotilde, d'être venue sur Radio Présence pour nous parler des SOS Chrétiens d'Orient. Nous te souhaitons beaucoup de courage et bonne chance aussi, en espérant que tu sois prise en mission dans la destination que tu veux, et plus particulièrement d'Arménie, c'est ce qu'on a compris. Dans quelques instants, Louis-Marie, on se retrouve pour une chronique qui va parler de quel saint? Le bon micro, c'est les aléas
du
direct.
Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Cette semaine, on va parler de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qu'on fête demain.
Parfait. Et donc, on le fêtera demain. Et je vous propose une petite pause musicale, justement, avec Le Serviteur sur Radio Présence. Et on se retrouve juste après.
présence. Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière ? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 00 12.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 00 12.
0892 46 00 12.
Le standard des auditeurs. Présence.
h 43, Céline Dion avec Amalaï sur Radio Présence et sans transition, Louis-Marie, on te retrouve pour ta deuxième chronique sur Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort.
Mon micro, ah voilà, c'est bon. Exactement. Donc il est des... Arrêtez. Il est des saints dont la vie ne ressemble à un feu qui ne s'éteint pas, des hommes que Dieu semble avoir pétris d'une argile particulière, plus ardente, plus tenace, plus brûlante que la moyenne. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort est de cela. Missionnaire infatigable, fondateur, poète, théologien de la grâce et de la Vierge Marie, il a traversé sa courte vie, il mourut seulement à 43 ans, comme une torche dans le vent, et ce vent n'a jamais réussi à l'éteindre, et permettez-moi de vous en parler un peu aujourd'hui. Né Louis Grignon le 31 janvier 1673 à Montfort-sur-Meu en Bretagne, dans une famille modeste et profondément chrétienne, très tôt le jeune Louis manifeste une piété intense et une intelligence vive. Grâce à des bienfaiteurs, il peut poursuivre ses études à Paris, au collège Saint-Thomas de Villeneuve, tenu par des prêtres jansénistes. Pour rappel, hein, le jansénisme était une hérésie prominente à ce moment-là. Ce qui ne l'empêchera pas de développer une spiritualité radicalement opposée au jansénisme, toute de confiance, de tendresse et d'abandon filial à Dieu. Et c'est précisément à Paris, lors de ses années de formation, qu'il reçoit une grâce décisive. Un soir, en priant devant une statue de la Vierge Marie, il éprouve une certitude intérieure si forte et si lumineuse qu'il prend une décision qui va marquer toute sa vie. Il rajoute le prénom Marie au sien, il ne sera plus seulement Louis, il sera Louis-Marie. Ce geste n'est pas une coquetterie dévote, c'est un acte d'appartenance totale. Il veut signifier que sa vie entière est remise entre les mains de la Mère de Dieu, que Marie est désormais au centre de son chemin vers le Christ. Ce prénom ajouté est une consécration gravée dans son identité même. Ordonné prêtre en 1700, Louis-Marie brûle d'évangéliser. Il demande à être envoyé comme missionnaire et parcourt à pied les routes de France, la Vendée, la Bretagne, le Poitou, la Normandie. Il prêche dans les villages, les places publiques, les cathédrales. Sa parole est simple, directe et enflammée. Il plante des calvaires, compose des cantiques que le peuple reprend en cœur. Il réveille des paroisses endormies. Ses missions attirent des foules considérables, mais lui attirent aussi des ennemis. Certains évêques le trouvent trop enthousiaste, trop populaire, trop libre. Il est écarté, déplacé, découragé, mais jamais brisé. Il fonde deux congrégations qui lui survivront, la Compagnie de Marie pour les prêtres missionnaires et les Filles de la Sagesse pour le service des pauvres et des malades. Il meurt épuisé le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, au milieu d'une mission. Il avait 43 ans et le pape Pie XII le canonise en 1947. Mais ce qui fait de Louis-Marie, de Saint-Louis-Marie, un géant spirituel bien au-delà de sa propre époque, c'est un livre. Un livre qu'il a écrit dans le feu de sa vie intérieure et qui ne sera retrouvé caché dans un coffre que bien après sa mort. Ce livre s'intitule « Le traité de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie » et il mérite que nous y arrêtons quelques instants. Montfort part d'un constat simple mais profond. Nous sommes tous appelés à être saints, c'est-à-dire à ressembler au Christ, mais le chemin vers le Christ passe par celui qu'il a lui-même emprunté pour venir jusqu'à nous, et ce chemin, c'est Marie. Dieu a voulu prendre chair dans le sein d'une femme, il a voulu naître d'elle, être porté par elle, être formé par elle. Si Dieu lui-même a choisi ce chemin pour descendre vers nous, pourquoi n'emprunterions-nous pas ce même chemin pour monter vers lui? Mais Montfort prend soin de distinguer la vraie dévotion des fausses. Il écrit des formes superficielles, sentimentales, routinières de dévotion mariale et des pratiques extérieures, sans conversion intérieure. Une piété de façade qui n'engage pas la vie. Il les écarte fermement, la vraie dévotion à Marie, dit-il, est intérieure. Elle transforme le cœur, elle est tendre mais pas mièvre, elle est confiante mais pas naïve, elle est totale. Le cœur du traité, c'est ce qu'il appelle la consécration parfaite ou esclavage d'amour. Le mot esclavage peut nous choquer aujourd'hui et il choquait déjà à son époque. Mais Montfort l'emploie délibérément en lui donnant un sens radicalement évangélique. Il s'agit de se donner à Marie sans réserve, comme un enfant se donne à sa mère, comme un serviteur se donne à sa maîtresse, non par contrainte, mais par amour. On lui remet tout, ses mérites, ses prières, ses œuvres, ses joies et ses souffrances. Marie, à son tour, les offre au Christ d'une manière incomparablement plus pure et plus agréable à Dieu que si nous lui offrions nous-mêmes directement. Montfort a une formule belle et saisissante, il dit que Marie est le moule du saint et que quiconque se jette dans ce moule en ressort à l'image de Jésus-Christ. C'est une image d'artisan, de potier, d'orfèvre. Marie ne retient pas à elle ce qu'on lui confie, elle le forme, le purifie, puis le restitue au Christ. Ce traité a exercé une influence considérable dans l'histoire de la spiritualité catholique. Un jeune homme de Pologne au XXe siècle lira en cachette pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce jeune homme s'appelle Karol Wojtyła, il sera bouleversé par ce livre au point d'en faire le fondement de toute sa vie spirituelle. Et quand il deviendra pape sous le nom de Jean-Paul II, il prendra pour devise deux mots latins tirés directement de Montfort, « Totus tus, tout à toi, Marie ». Voilà la trace d'un homme mort à 43 ans, épuisé sur les routes de Vendée, et dont les idées ont formé un pape qui a changé le monde. Chers auditeurs, Saint Louis-Marie de Montfort nous invite à ne pas avoir peur de Marie, à ne pas voir la dévotion mariale comme un détour ou un obstacle sur le chemin du Christ, mais comme une route royale tracée par Dieu lui-même. Il nous invite à lui confier notre vie avec la simplicité d'un enfant qui prend la main de sa mère, non pas parce que cette main remplace le père, mais parce qu'elle y conduit plus sûrement. Sa fête est célébrée le 28 avril, et en ce jour peut-être pourrions-nous simplement dire, comme lui disait souvent chaque jour de sa vie, « Me voici Marie, prends ce que tu veux de moi et conduis-moi à ton fils ».
Merci beaucoup Louis-Marie. Pour méditer sur ta chronique, nous écoutons le « Je vous salue Marie » d'Ad Dei Gloriam.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Thank you.
Richie et Poveri, c'était Sara Perchettiamo sur Radio Présence. C'est déjà la fin de Sauf d'autres choses, mais on se retrouve comme chaque lundi, donc lundi prochain à 19h en direct pour vous accompagner dans votre début de soirée. Merci beaucoup Louis-Marie pour cette émission. Voilà, on est sur les dernières. On vous annoncera peut-être une surprise pour la dernière émission de la saison et peut-être la dernière de Sauf d'autres choses. Quant à moi, je vous retrouve jeudi à partir de 7h pour Présence Matin. Très bonne soirée. Tout de suite, Nathalie Cardon avec Des Clés pour Vivre, suivie des Rues de Toulouse. Très bonne soirée sur Présence.
C'était Sauf d'autres choses, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.